Je voudrais ce soir vous parler du très saint rosaire, de cette dévotion très ancienne dans l'Église, qui remonte au Moyen-Âge, voire même auparavant, et qui s'est développée, et que la très sainte Vierge Marie a recommandé, spécialement en nos jours. Monsieur l'abbé Pellouchou vous en a notamment parlé, comment à Fatima, la très sainte Vierge Marie, comme à Lourdes d'ailleurs, a invité Sainte Bernadette ou les trois voyants de Fatima à réciter le chapelet, le rosaire. Et ce soir, cette conférence, je la ferai en trois parties. Une première partie qui est l'aspect historique. Alors pourquoi s'arrêter à l'histoire du rosaire? Pour mieux en comprendre l'esprit, voir ce qui se faisait il y a maintenant pas loin de 10 siècles. Et ça nous aidera à mieux comprendre notre chapelet aujourd'hui. Puis dans une seconde partie, nous verrons de quelle prière est composé le chapelet. Vous le savez, mais surtout voir pourquoi cet aménagement des différentes prières. Notre Père, le Je crois en Dieu, les Ave Maria, comment cela s'est mis en place. Et puis enfin, dans une dernière partie, voir ce que signifie la prière essentielle du chapelet, à savoir le « Je vous salue Marie ». Qu'est-ce que nous disons à la très sainte Vierge Marie à travers ces paroles, notamment les paroles de l'ange et les paroles de sainte Élisabeth. Le chapelet, le rosaire, ce sont des termes qui aujourd'hui sont synonymes. Mais au Moyen-Âge, cela avait un symbolisme floral. Rosaire, cela vient de rose. D'ailleurs, dans le rituel latin, quand le prêtre bénit un chapelet, on dit qu'il bénit une couronne de roses. Chapelle, cela a la même racine que chapelet, cela vient de chapelle, chapeau en latin, le couvre-chef. Chapeau de fleurs, couronne de fleurs donc. Et à ces fleurs est associée une idée de joie. C'est une pratique très ancienne, déjà chez les païens, pour marquer la joie, on se couronnait de fleurs. Et au Ve siècle, le poète Sédulius, poète chrétien, écrivait de Marie « Gaudia matris abens cum vichate honore ». Marie, ayant la joie d'être mère, avec l'honneur d'être vierge. Et cela ne s'était pas vu auparavant, et cela ne se verra pas par la suite. Déjà, cette idée de la joie de Marie, mère. À la très sainte Vierge Marie a donc, dès le début, été associée cette idée de joie. Pourquoi la joie? Eh bien, la joie même de l'Évangile. Et le mot Évangile, on l'oublie trop, signifie bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que nous, les hommes, qui étions condamnés à l'enfer, privés du ciel par le péché de nos premiers parents, eh bien la condamnation est levée. Le salut nous est offert par Jésus-Christ. C'est cela l'Évangile. C'est cela la bonne nouvelle. Le ciel est de nouveau redonné aux hommes. Et comment cela se fait? Par Marie. Cette joie de la bonne nouvelle, cette joie du salut, nous vient par Marie, la mère de Jésus-Christ. Voilà donc, voyez, cette dévotion mariale, dévotion joyeuse. Nous nous réjouissons du ciel qui nous est donné, qui nous est rouvert par Jésus et par Marie. Et quelle est la fleur qui symbolise le plus nettement la joie? Bien, c'est la rose. Voilà pourquoi elle a été choisie, pourquoi on parle de rosaire. Les païens disaient « couronnons-nous de roses avant qu'elles ne se fanent ». C'est-à-dire, profitons des joies de la vie avant qu'elles ne se passent, qu'elles passent. Eh bien, pour nous, chrétiens, il s'agit de profiter de ces joies de ces joies du bonheur du ciel qui nous est promis dès maintenant, de jouir de tout ce vrai bonheur dans la très sainte Vierge Marie, jouir des biens surnaturels. Et au XIIe siècle, un écrivain religieux écrivait « Ô couronne de roses, assemblage de joie, tes louanges donnent des émotions sublimes. » Oui, les chrétiens étaient pleins de joie en récitant leur chapelet. Dans un manuscrit anonyme du XVe siècle, on lit « Lorsque la belle rose, Marie, commença à fleurir, l'hiver d'une tribulation disparut, et l'été des joies éternelles commença de briller, et avec lui nous fut rendue la verdeur du paradis des délices. » Dans le même ordre d'idées, on trouve aussi au Moyen-Âge l'idée d'un jardin de délices, d'un jardin spirituel où l'on trouve la joie. Jardin de délices, c'est-à-dire un jardin rempli des fleurs les plus belles, un jardin de roses. Et un poète fait dire à Marie « On m'appelle justement le jardin de roses. Venez tous à moi, je veux, je puis, je dois vous exaucer. » Dire le chapelet, c'est donc rentrer dans ce jardin des roses de Marie, où Marie est prête à nous donner, à nous combler de ses grâces. Il y avait aussi une autre coutume, c'était se mettre des couronnes, des chapelles, comme on disait au Moyen-Âge, de roses. Et dans la pharmacopée, dans les théories médicales de l'époque du Moyen-Âge, on estimait qu'une couronne, qu'un chapelle de roses, apaisait les douleurs de la tête et raffermissait les dents. Je ne sais pas ce qu'il en est au niveau médical, mais on a appliqué cela en ce temps-là à la très sainte Vierge Marie, un petit peu comme un remède pour notre âme, pour rendre notre âme plus forte. Et un auteur médiéval écrivait, je l'ai transcrit en français moderne parce que le français ancien de cette époque du XIIIe siècle est difficilement du Xe siècle est difficilement lisible. C'est tiré d'un poème, le Rosarius, sur le chapelet. Quand Marie est plus priée, la vertu est plus pratiquée. Les mauvaises habitudes se sont établies au point que tu es tout alangui, tout affaibli. Marie les chasse dehors, d'abord de l'âme, puis du corps. De cette double maladie, elle soigne du cœur, du corps, elle ôte l'ordure. Si nous sommes éprouvés, par elle nous sommes réconfortés. Marie, en toute affliction, nous est d'un grand secours. Mets cette rose en ton chef, sur ta tête. Elle t'ôtera, elle te retirera tous les maux. Et même parfois, à l'issue des cérémonies, on distribuait, pour rappeler cela, des roses bénies à ceux qui assistaient aux cérémonies en l'honneur de la très sainte Vierge Marie. Ainsi, on le voit qu'au Moyen-Âge, le chapelet était une dévotion profondément joyeuse. C'était la joie d'être sauvé, cette joie du salut apportée par la très sainte Vierge Marie. Et nous, quand nous disons notre chapelet, avons-nous cette joie? Joie de se dire, Dieu nous appelle en son paradis. Et le chemin nous est offert par Jésus, par Marie. Voilà donc un des premiers aspects du chapelet au Moyen-Âge. Le second aspect, c'est que le chapelet, c'est en fait des saluts à Marie. En effet, je vous salue Marie. C'est cela, essentiellement, cette prière. Et en disant ces mots, je vous salue Marie, on retrouve encore cette idée de joie. Car qu'est-ce qu'il y a pour nous de meilleur que ces paroles de l'archange Gabriel à la très sainte Vierge Marie? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, quand l'archange Gabriel parle à la sainte Vierge Marie, c'est que la plénitude des temps est venue. Le temps de l'Ancien Testament, de l'attente du Messie promis déjà à nos premiers parents, dans la Genèse, juste après la faute d'Adam et Ève, rappelez-vous ce que nous disions dimanche, eh bien, le salut est vraiment là à nos portes. C'est donc déjà une joie pour nous. L'Annonciation qui est évoquée dans ce « Je vous salue Marie », c'est la joie de la Très Sainte Vierge Marie, mais c'est aussi notre joie. Et en disant à Marie « Je vous salue Marie » comme l'archange Gabriel, eh bien, on renouvelle pour la Très Sainte Vierge Marie cette joie qu'elle a connue lors de l'Annonciation. Et dans un de ces mystères, miracles ou fabliaux qui s'adressent, parlant de la Très Sainte Vierge Marie, on voit Marie qui parle à une dame qui l'a pris et qui la salue par le « Je vous salue Marie ». Et Marie lui dit, « Eh bien, c'est une joie immense que tu me redonnes. Et chaque fois que tu dis « Je vous salue Marie », eh bien, je ressens en moi cette joie, ce bonheur plein et entier que j'ai connu. » Quand l'archange Gabriel est venu me voir à Nazareth. Cette autre idée, donc, d'honorer Marie et de la consoler. Et c'est très intéressant, parce que qu'est-ce que demande la Très Sainte Vierge Marie à Fatima, rappelez-vous? Elle demande que l'on vienne consoler son cœur douloureux et immaculé. Et comment la consoler? En renouvelant le plus grand des bonheurs qu'elle a connu, celui d'être Mère de Dieu. C'est donc ce second aspect qui est apparu alors, non seulement recevoir les joies de l'Évangile à travers Marie, mais aussi, eh bien, offrir à Marie des couronnes de roses, des couronnes de fleurs. Alors bien sûr, au Moyen-Âge, le chapelet n'avait pas encore la forme qu'il connaît aujourd'hui. On salue Marie par diverses prières. L'Ave Maria, que nous connaissons, le « Je vous salue Marie ». Parfois, c'était aussi le « Salve Regina », « Salut, Reine des cieux ». Ou encore « Ave Maristella », « Salut, Étoile de la mer ». D'autres fois, on adressait à Marie ce qu'on appelait des « Ave Maria farci », c'est-à-dire qu'on prenait quelques paroles de l'Ave Maria, dans lesquelles on mettait une sorte de farce, de contenu, c'est-à-dire des paroles poétique, d'autres louanges à Marie. Et ce que Marie regarde surtout, ce n'est pas seulement les paroles qui lui sont dites, mais surtout le cœur qui les prononce. Est-ce qu'on le fait avec attention, avec amour ou pas? Et si on salue Marie, le Moyen-Âge insiste souvent là-dessus, avec notre cœur, Marie, alors, apprécie. C'est l'histoire très belle, vous la connaissez sans doute, du tombeur ou du jongleur de Notre-Dame. C'était un brave troubadour, très ignorant, qui ne connaissait ni « Je vous salue » ni notre Père. Mais il voulait cependant honorer sa dame, honorer la Très Sainte Vierge. Alors un jour, il pénètre dans l'église, il n'y avait personne, et au pied de la statue de Marie, il commence à faire ses jongleries, ses différents tours. Il jette ses balles en l'air, etc. Arrivent quelques religieux, quelques passants, qui s'étonnent de cette irrévérence, comment dans l'église faire ces tours de battleur. Et là, miracle, c'est un des mystères de la Vierge, une de ces pièces de théâtre pieuses que l'on jouait. Miracle, eh bien, Marie et l'enfant Jésus s'animent. La statue bouge et remercie, applaudit le jongleur. Par là, on rappelait justement que ce que Marie regarde, c'est bien plus, voyez, cette attention, cette générosité, cet amour que l'on met dans nos prières. Ainsi, ces saluts à Marie, ces prières à Marie, sont comme des roses spirituelles qu'on lui offre. Et en retour, Marie va nous prendre sous sa protection. C'est un autre miracle de Notre-Dame du XIVe siècle qui est très beau. S'y commence le miracle de Notre-Dame, comment elle garantit de la mort un marchand qui longtemps l'avait servi de chapiot, c'est-à-dire de chapelet, d'un larron qui l'est pillé, et comment elle apparut au larron et au marchand, et puis le larron devint ermite. Il y avait donc un marchand qui, en son jeune âge, était très dévot à la Sainte Vierge et qui aimait aller fleurir chaque jour les statues de Marie dans les églises. Puis, il est devenu grand, il est devenu marchand et il n'avait plus guère le temps de fleurir les statues de Marie. Mais il avait pris l'habitude de réciter le psautier de Marie, c'est-à-dire les 150 Ave Maria chaque jour. On retrouve ici d'ailleurs le nombre du rosaire, les 150 Ave. Et 150, c'est le nombre de psaumes qu'il y a dans la Bible. Le psautier, c'est 150 psaumes. Donc chaque jour, il ne récitait pas les 150 psaumes, mais les 150 Ave Maria. Et alors, eh bien, ce marchand était en voyage et il était justement en train de réciter son rosaire. Et voilà qu'au coin d'un bois, un brigand est là, qui l'attend et qui l'épie. Étant prêt à lui tomber dessus, à le mettre à mort et à s'emparer de ses biens. Mais voilà que le larron aperçoit alors une femme plus belle et plus noble que ne fut jamais femme de roi. Cette femme se tenait devant le marchand qui faisait une chapelle de roses, pour reprendre le terme ancien. Et la douce dame prenait ces roses au-dedans de la bouche du marchand et lui en ornait la tête. Elle prenait donc comme des roses qui sortaient de la bouche de ce marchand, qui disait ses Ave Maria, et elle le couronnait de roses. On voit ici tout ce symbolisme et tous les faits de l'Ave Maria. La Sainte Vierge Marie prend nos prières, nos salutations, et en retour, elle nous donne ses grâces. Et cette couronne nous prépare même cette couronne du ciel. Et vous l'imaginez bien, le voleur, eh bien, voyant cela, a abandonné ses idées mauvaises, il se convertit et il devient ermite. Donc, se consacre sa vie à honorer la très sainte Vierge Marie. Salut à Marie, couronne de roses, couronne de joie, voilà donc quelle est à l'origine le rosaire. Et ça doit mieux nous aider, je pense, à comprendre notre chapelet et la manière de le dire aujourd'hui. Mais déjà à cette époque, il y a une objection à laquelle nous répondrons un peu plus tard, c'est que ces Ave Maria, ces prières à la très sainte Vierge, risquaient de détrôner une autre prière qui est plus grande, le Notre Père. Vous le savez, Notre Père nous a été donné par Jésus-Christ lui-même. Les apôtres demandent à Jésus un jour, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Et Jésus leur dit, « Quand vous prierez, vous direz, « Notre Père qui êtes aux cieux, etc. » Nous verrons donc ce qu'il faut dire à cette objection un peu plus tard. Comment donc s'est formé le chapelet tel que nous le connaissons? Eh bien, le nombre de 150, on l'a vu, correspond au nombre de psaumes. C'est le psautier marial. Cette idée encore d'office de Marie, des psaumes qu'on récite en son honneur, se retrouve dans le scapulaire du Mont Carmel, puisqu'il est demandé normalement de réciter le petit office de la Sainte Vierge, qui contient des psaumes. Mais ça peut être remplacé par la récitation du chapelet, et on obtient alors les mêmes avantages spirituels. Donc, si on porte le scapulaire du Mont Carmel et qu'on récite notre chapelet. Mais alors, pour aider à cette dévotion, eh bien, les auteurs spirituels vont rajouter des choses, d'autres éléments, pour aider que ce ne soit pas une prière trop mécanique. C'est ainsi que pendant un temps, on méditera sur les 15 joies de Marie. En notre lieu, on parlera des 7 joies et des 7 douleurs de Marie. On mettra aussi quelques stations du chemin de croix au milieu du chapelet. Ça sera ce qui nous donne aujourd'hui les mystères douloureux. Et même un auteur spirituel qui avait fait 150 méditations, 150 thèmes, sorte de mystère, un pour chacun des ave du chapelet. Imaginez la difficulté pour retenir cela. Ce qui finalement s'est imposé avec le temps, c'est cette idée des 15 mystères du rosaire. On a rassemblé donc les Ave Maria en dizaines, une dizaine de chapelets, et sur chaque dix Ave, eh bien, on méditait un des mystères de la Très Sainte Vierge Marie. Et cette forme de chapelet s'est imposée progressivement au cours des âges. Dès le XIIIe siècle, les papes ont enrichi le chapelet d'indulgences particulières. Ceux qui disent le chapelet recevaient les indulgences. Et les papes avaient précisé une certaine forme pour dire le chapelet. Et cette forme indulgencier qui est passée dans l'usage commun et que l'on connaît aujourd'hui. Alors, comment est-on passé des joies de Marie au mystère douloureux? Eh bien, les théologiens considèrent que quand l'archange Gabriel est apparu à Marie pour lui dire « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Quand l'archange Gabriel lui a dit cela, Marie a eu une connaissance par Dieu particulière de ce que serait sa mission et de tout ce qu'elle aurait à connaître comme mère de Dieu, mère du Sauveur, et notamment la passion, notamment qu'elle serait là au pied de la croix. Toutes ces douleurs, toutes ces épreuves qu'elle aura à connaître, la fuite en Égypte, les différentes persécutions, tous les bonheurs aussi qu'elle aurait, tout cela, elle l'a connu à ce moment-là. Et quand Marie dit « Fiat », qu'il me soit fait selon votre sainte parole, Marie accepte toutes ces choses, et les événements heureux, et les événements malheureux. Voilà pourquoi, en célébrant simplement l'Annonciation, on peut évoquer tous les mystères de la vie du salut, tous les mystères de la vie de Notre-Dame et de notre Seigneur. Ainsi, un des mystères du rosaire avait été nommé ainsi. La croix, dans la joie, rachète le monde. La croix était envisagée, la passion de notre Seigneur, comme une joie. Cette joie, eh bien, de voir le monde racheté par Jésus-Christ. Et si l'on observe le cœur de Marie, dans le cœur de Marie au pied de la croix, il y avait à la fois cette douleur d'une mère de voir son fils crucifié, et c'était une douleur terrible. Pour Marie, il faut imaginer ce que c'est, surtout une mère si sainte, si pure, si aimante. Mais en même temps, il y avait dans le cœur de Marie cette joie de voir le monde racheté par son fils. Et nous, quand nous prions le chapelet, ces mystères douloureux notamment, ces mêmes sentiments peuvent se mêler en notre âme. Et très vite, on va voir naître des confréries, voire même des chevaleries consacrées à Notre-Dame, le chapelet. Et c'est Saint Dominique, surtout, qui va faire cela avec l'évêque Foulque, l'évêque de Toulouse. Et ce sera Saint Dominique, d'ailleurs, qui poussera l'évêque de Toulouse à agir ainsi. Et ils vont répondre une chevalerie qu'on appelle les gais chevaliers, G-A-I-S, bien sûr, chevaliers joyeux, qui vont agir contre l'infinie tristesse de l'erreur albigeoise. Les albigeois, ces hérétiques, prétendaient qu'il y avait deux dieux, un dieu bon qui avait créé le monde spirituel, le monde invisible, et un dieu mauvais qui avait créé le monde sensible. Et donc, tout ce qui était sensible devait être banni, rejeté. Et cela conduisait à un profond désespoir, à une profonde tristesse. Ils en venaient même à condamner le fait d'avoir des enfants, disant qu'il fallait que le monde sensible disparaisse, donc prenant l'infanticide et autres crimes odieux. Ils prenaient aussi le suicide. Eh bien, contre ce désespoir, cette tristesse de l'hérésie, eh bien, les chevaliers, les gais chevaliers, proclamaient que le monde entier, aussi bien spirituel que corporel, visible et invisible, a été rachetée par notre Seigneur, et que cela nous a été donné, et que Jésus-Christ nous a été donné par Marie. Comment les appelait-on ? Les gais chevaliers, comme je vous le disais, la milice de Jésus-Christ, l'idée de combattre pour Jésus-Christ, et enfin, le tiers ordre de la pénitence de Saint Dominique. Et déjà là, vous voyez, chez Saint Dominique, se trouve liée la dévotion à Marie, le chapelet d'un côté, et d'autre part, la pénitence. C'est ni plus ni moins que le message de Fatima que l'on trouve au XIIIe siècle, 7 siècles auparavant. C'est très beau de voir finalement cette continuité dans la dévotion mariale et comment Marie ne fait simplement que nous rappeler, peut-être parce qu'on l'avait trop oublié, quelle est la vraie dévotion. Tiers ordre de la pénitence pour réparer les péchés de notre temps, de notre époque. Faire pénitence pour consoler le cœur de Marie. C'est le sens particulier de cette dévotion aux 5 premiers samedis du mois. Et on voit le remède aux erreurs de ce temps était déjà là. C'est le même aujourd'hui. C'est notre chapelet. Et on peut le noter, le titre de Notre-Dame est un terme de chevalerie. En effet, dire à Marie qu'elle est Notre-Dame, c'est dire qu'elle est notre maîtresse. Elle est comme, vous savez, au Moyen-Âge, avec la féodalité, il y avait les seigneurs auxquels étaient soumis des vassaux, qui étaient d'autres seigneurs, plus petits. Et ces vassaux donnaient leur foi, promettaient obéissance et service à leur seigneur, et notamment, ils s'engageaient à combattre pour leur seigneur. Et quand le seigneur était une femme, eh bien, on l'appelait, non pas le seigneur, mais la dame. Notre-Dame, c'est donc appeler Marie ainsi, c'est reconnaître qu'elle est comme notre suzeraine, notre maîtresse, notre chef, et on lui donne notre parole, notre foi. On promet de vivre pour sa gloire, pour elle, de lui obéir. Voilà donc quel est l'esprit du rosaire primitif, du chapelet tel qu'il se pratiquait au Moyen-Âge. Dans une deuxième partie, si vous voulez bien, voyons maintenant comment les prières ont été mises en place dans notre chapelet. Vous le savez, je pense, on commence par le « Je crois en Dieu », un pater, 3 ave, puis ensuite les 5 dizaines. Quelques invocations ont été ajoutées par la suite à Saint Michel Archange ou pour les pécheurs à la demande de la Très Sainte Vierge Marie à Fatima. Le chapelet commence donc par un prélude, le « Je crois en Dieu », à notre Père et 3 ave. Pourquoi d'abord le credo ? Le credo, c'est le résumé de notre foi, mais c'est aussi un signe extérieur que nous sommes catholiques, que nous appartenons donc à la véritable Église. Pour appartenir à l'Église, vous le savez, une des conditions, c'est la foi, de croire toutes les vérités de foi. Je crois en Dieu, et bien par là on dit, je suis membre de l'Église, c'est-à-dire membre de Jésus-Christ, et c'est en Jésus-Christ que je veux prier. Et c'est parce que je suis uni à Jésus-Christ que ma prière a une valeur. C'est cela, voyez, aussi qu'indique notre credo, notre appartenance à l'Église catholique. Puis ensuite, il y a un pater et 3 ave. On dit que cela est récité aux intentions de l'Église, et notamment aussi, donc, bien sûr, pour le pape, pour l'Église. Puis viennent les dizaines de chapelets. On l'a vu, donc, maintenant, à chaque dizaine du chapelet a été attaché un mystère particulier, un des 15 mystères du rosaire. Et ça nous amène d'évoquer un événement de la vie de Jésus-Christ ou de Notre-Dame que nous allons méditer. Et il y a ce qu'on appelle le fruit du mystère. C'est-à-dire, c'est une vertu particulière que l'on peut contempler dans ce mystère de la vie de Notre-Dame ou de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette vertu, eh bien, on veut la contempler, mais aussi l'imiter, et non seulement, et pour l'imiter, obtenir les grâces nécessaires de Jésus-Christ par Marie. Ainsi, si on médite sur donc l'Annonciation, on demandera à Marie. On verra comment Marie a été humble et on lui demandera qu'elle nous obtienne de son Fils la grâce, les secours nécessaires pour être capable de pratiquer cette vertu. Et vous voyez comment le chapelet est une dévotion qui nous convertit. Non seulement on voit le but à atteindre, mais par le chapelet, on obtient les secours nécessaires pour l'obtenir. Et il ne faut pas hésiter, comme nous disons le chapelet, à personnaliser pour nous-mêmes ce mystère. Il y a quelques grandes idées données par ce qui est indiqué sur les feuilles, mais on peut préciser cette grâce que nous demandons, l'appliquer plus particulièrement à nous-mêmes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a différentes formules pour le fruit du mystère. Se dire, par exemple, quelle forme d'humilité, quelle forme de charité fraternelle je dois pratiquer, dans quelles circonstances, comment le faire, et que Marie me vienne en aide pour cela. Après avoir vu un petit peu ce que nous désirions, eh bien, va venir la demande. C'est le Notre Père. Le Notre Père est une prière de demande. Il est composé de sept demandes, je pense que vous le savez. Tout d'abord, les trois premières demandes qui regardent Dieu, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et si l'on voit ces demandes du Notre Père, bien Marie a un rôle pour les remplir. Que votre nom soit sanctifié. Comment Marie a œuvré pour la sanctification de Dieu, pour la glorification de Dieu. Elle a donné Jésus-Christ qui offre à Dieu la gloire la plus grande, la plus immense, celle de son sacrifice. Que votre règne arrive. Le règne de Dieu arrive par Jésus-Christ et Jésus-Christ arrive par Marie. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui, plus que Marie, parmi les hommes, a fait cette volonté de Dieu. Il y a ensuite quatre demandes qui nous regardent, nous, dans le Notre Père. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Eh bien, le pain de chaque jour, c'est bien sûr le pain corporel que l'on demande, mais c'est bien plus le pain de l'âme. Et quel est-il, sauf cette nourriture de l'âme? C'est naturellement l'Eucharistie, la grâce divine, la pratique des vertus, la grâce des vertus, tous nos besoins. Et cela nous est donné par Marie. Rappelons-nous ce lien très fort, nous aurons l'occasion d'en reparler, qu'il y a entre l'Eucharistie et la Très Sainte Vierge Marie. Communier, c'est recevoir le corps de Jésus-Christ, tout Jésus-Christ en nous. C'est recevoir le Fils de Marie. Et nous demandons ensuite, dans le Notre Père, le pardon des péchés qui nous séparent de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui nous unit à Dieu de nouveau, qui nous obtient le pardon des péchés. Là encore, par Marie. Nous pouvons, le pardon de nos péchés nous est accordé par Marie et Jésus-Christ. Succomber à la tentation, eh bien Marie, elle qui a été sans aucun péché, eh bien nous obtient encore cette même grâce. Délivre-nous du mal. Vous voyez, toutes ces demandes du Notre Père, elles sont liées à la Très Sainte Vierge Marie. C'est par elle que nous pouvons les obtenir. Et c'est ensuite, de manière naturelle, que nous allons demander par Marie tout cela. Comment? En récitant ces 10 Ave Maria. Tout ce que nous avons demandé dans le fruit du mystère, dans le Notre Père, eh bien, on passe maintenant par Marie pour que Dieu nous l'accorde. Et on voit qu'il n'y a pas d'opposition finalement entre le Notre Père et le Je vous salue Marie. Le Je vous salue Marie ne vient pas détrôner la prière de Jésus-Christ. Non, elle vient la parachever et nous permettre d'en obtenir plus sûrement les effets en passant par Marie. Maintenant, dans une dernière partie, j'aimerais aborder le « Je vous salue Marie » lui-même. Qu'est-ce qu'il signifie? Bien sûr, vous le savez qu'il y a donc ces deux trois parties. Une partie qui nous est donnée par l'archange Gabriel, le jour de l'Annonciation, une partie par Sainte Élisabeth, lors de la Visitation, et une dernière partie qui nous est donnée par l'Église. Voyons d'abord ces mots de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, le jour de l'Annonciation, entre dans la maison de la Vierge. Marie était en train de prier. Et alors, il s'incline devant elle et lui dit « Je vous salue Marie ». Essayons de nous représenter la scène et de voir le côté étonnant de cela. Nous voyons quoi? Un ange, qui sont par nature bien supérieurs aux hommes. Nous qui sommes composés d'une âme et d'un corps, nous sommes bien inférieurs aux anges. Et dans l'Ancien Testament, les hommes ont toujours honoré, vénéré les anges. C'est l'histoire de Tobie avec Saint Raphaël. C'est l'histoire de Moïse aussi qui reçoit, non, d'Abraham, pardon, qui reçoit les trois anges. Pourquoi? Parce que l'ange est, ayant une nature purement spirituelle, il nous dépasse, nous qui avons une nature corporelle. Les anges sont spirituels, incorruptibles. Nous, nous sommes corruptibles. Nous sommes, eh bien, conduits à la mort. Abraham dit à Dieu, « Je parlerai à mon Seigneur, moi, cendre et poussière. » Voilà pourquoi c'est normalement aux hommes à honorer les anges, et pas l'inverse. D'autre part, les anges, les bons anges, sont beaucoup plus proches de Dieu que nous le sommes. Les anges se tiennent devant Dieu, et notamment eh bien, les trois archanges, Saint-Michel, Saint-Gabriel et Saint-Raphaël, qui se tiennent devant Dieu. Nous, par rapport à eux, nous sommes beaucoup plus loin, comme exilés en cette vallée de larmes. Les anges, eux, se tiennent devant Dieu et le louent en permanence. En cela encore, les anges nous dépassent, et c'est à nous, bien sûr, d'honorer la majesté divine en eux, l'intimité qu'ils ont avec Dieu. Et les anges, eh bien, ont aussi la grâce, mais d'une manière bien plus éminente que nous. Ils nous dépassent encore. Alors on s'étonne maintenant qu'un ange vienne saluer une créature humaine, vienne saluer Marie. C'est donc que Marie doit être et est plus grande que les anges, à une unité beaucoup plus importante. Et c'est pour cela bien que l'archange Gabriel s'incline devant Marie. Et Marie elle-même en est étonnée. Pourquoi? Eh bien, parce que Marie dépasse l'ange. Nous l'avons vu, les anges nous dépassent par leur proximité de Dieu, par la grâce, par leur dignité. Eh bien, Marie dépasse les anges. Et d'ailleurs, l'archange Gabriel se doit d'expliquer ce qu'il fait. Je vous salue Marie. Il dit pourquoi? Pourquoi lui, l'ange, s'incline devant Marie? Il lui dit, naturellement, pleine de grâce. Et c'est très beau. Il dit donc à Marie, vous êtes plus pleine de grâce que je ne le suis. Voilà pourquoi je m'incline devant vous et je vous révère. Pourquoi? Eh bien, parce que l'âme de Marie a en elle toute la plénitude de la grâce. Que fait la grâce en nous? Elle réalise deux choses. La grâce nous permet de faire le bien et d'éviter le mal. Eh bien, en Marie, on voit cela. D'une part, Marie, bien sûr, a évité le péché mieux que tout autre saint, évidemment. Il n'y a eu en elle aucun péché. Bien plus, le péché n'a eu aucune empreinte sur elle. Par un privilège spécial, vous le savez, elle a été préservée du péché originel. C'est-à-dire que cette marque qui touche tous les hommes depuis Adam et Ève, cette tache du péché originel, Marie, seule, par un privilège unique, en a été préservée. Ce sont les mérites de Jésus-Christ qui ont été appliqués à Marie, qui ont racheté Marie d'une certaine manière par avance et qui ont fait qu'elle est l'Immaculée Conception. Quand un enfant est conçu dans le sein de sa mère, il reçoit à ce moment-là, en même temps qu'il est conçu, le péché originel. Avant même sa naissance, l'enfant, ce n'est pas un péché personnel, mais c'est une tâche qui vient d'Adam et Ève. Seule Marie en a été préservée. Et dans le Cantique des Cantiques, eh bien, il y a cette phrase que l'on applique à la très sainte Vierge Marie. « Vous êtes toute belle, mon amie, et sans aucune tâche. » Hormis la Sainte Vierge, dit saint Augustin, tous les saints et les saintes durant leur vie terrestre, à la question suivante, êtes-vous sans péché, se seraient écriés d'une voix unanime. Si nous disions nous sommes sans péché, nous nous tromperions nous-mêmes, et la vérité ne serait pas en nous. La Sainte Vierge, elle, fait exception. Pour l'honneur du Seigneur, quand il s'agit du péché, je veux qu'il ne soit jamais question d'elle. Donc, Dieu lui a donné une grâce plus abondante, cette grâce d'être l'Immaculée Conception, et il n'y a en elle aucune trace ni d'imperfection, ni de péché. Toujours, elle a servi Dieu parfaitement, pleinement. Et c'est peut-être sans doute pour cela, eh bien, que elle mérita de concevoir le Sauveur par sa pureté, sa sainteté. Bien sûr, d'autres saints ont pu être préservés du péché originel, plutôt purifiés du péché originel, c'est notamment saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste a eu le péché originel. Dans le sein d'Élisabeth, il l'avait. Mais miraculeusement, en raison de sa mission de précurseur, celui qui devait annoncer le Sauveur, saint Jean-Baptiste a été purifié du péché originel dans le sein de sa mère. Quand cela, lors de la visitation, quand la voix de Notre-Dame s'adresse à Élisabeth, Élisabeth sent en elle l'enfant qui tressaillit. Et à ce moment-là, Jean-Baptiste, dans le sein de Marie, d'Élisabeth, est purifié. Et qui le purifie? C'est Jésus-Christ que Marie porte en elle, en son sein. Donc il y a, vous le voyez, Marie pleine de grâce, parce que sans péché, sans aucune tâche. Marie est pleine de grâce parce qu'elle accomplit aussi toutes les vertus. Et quand on voit les saints, ils pratiquent les vertus d'une manière admirable. Mais les saints ont en quelque sorte des spécialités. Certains sont plus humbles, d'autres pratiquent davantage le détachement. Un saint François fut vraiment totalement détaché des biens de la terre. Certains pratiquent la douceur, un saint François de Sales, par exemple. D'autres ont pratiqué la miséricorde, un saint Jean de Dieu qui s'est occupé des malades, et ainsi de suite. Ainsi, on présente divers saints comme des modèles de telle ou telle vertu. Mais pour Marie, elle n'est pas seulement le modèle d'une vertu ou d'une autre. Elle est le modèle de toutes les vertus. Sans aucune exception. Quelle que soit la vertu considérée, l'humilité, la douceur, la force, etc., Marie les a, et elle les a toutes en plénitude. Pureté aussi, chasteté, Marie est encore un modèle. Elle le dit elle-même lors de l'Annonciation, elle ne connaît pas d'homme. On pourrait développer cela. Pleine de grâce donc, en Marie, pour faire le bien et pour éviter le mal. Et comme Marie est pleine de grâce, cette plénitude de grâce va rejaillir. On voit les saints qui sont emplis de la grâce divine, plus ils sont saints, plus ils font des conversions. Il y a des saints qui ont fait des choses vraiment étonnantes. Pensez à un saint François Xavier qui a baptisé plus de 500 000 païens. Imaginez ce que ça représente, 500 000 hommes. Comment la grâce, sortait du cœur rempli de feu d'un Saint François Xavier. Et c'est déjà donc une grande chose pour un saint d'avoir une grâce pour se sanctifier eux-mêmes. Mais Marie est tellement emplie de la grâce divine, tellement pleine de grâce, eh bien qu'on peut dire que cette grâce va rejaillir de son âme sur sa chair. Et certains auteurs iront même jusqu'à dire que c'est pour cela qu'elle a mérité de concevoir le Fils de Dieu. La grâce qui était en son âme jaillit sur son corps. Et par un privilège spécial, eh bien, Dieu l'a choisie pour être sa mère. C'est Hugues de Saint-Victor qui dit « Parce que l'amour du Saint-Esprit brûlait dans le cœur de la Vierge avec une ardeur singulière, il opérait dans sa chair des merveilles si grandes que d'elle naquit un homme Dieu, conformément au message de l'ange à cette Vierge sainte. Un enfant saint naîtra de vous et sera appelé Fils de Dieu. » Marie, remplie d'Esprit Saint, eh bien, va engendrer, va concevoir le Fils de Dieu. Et cette Marie est pleine de grâce, eh bien, cette grâce, elle va aussi la remplir, la répandre sur les autres hommes. On a vu que certains saints ont une grâce pour sauver plusieurs hommes, parce qu'ils sont remplis de la grâce divine. Mais s'il y avait un homme qui avait une grâce capable de sauver tous les hommes, eh bien, on pourrait dire qu'il a la grâce la plus grande qui puisse être. Cela est vrai de notre Seigneur, qui est la source de toute grâce, mais cela est vrai aussi de Marie, parce qu'elle est remplie de la grâce de Dieu, elle a ce pouvoir de sauver tous les hommes. Et quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'épreuve, en tout danger, nous pouvons obtenir le salut par Marie. Donc Marie est vraiment notre protection et notre force pour nous sauver. On lit dans le livre de la Sagesse, « Votre cou est pareil à la tour de David, bâtie pour serrer des armes. 1000 boucliers, c'est-à-dire 1000 remèdes contre les dangers, y sont suspendus. » En priant Marie, nous obtenons d'elle tous les secours nécessaires, parce qu'elle est pleine de grâce. Alors n'hésitons pas à lui dire « Venez à mon aide, venez à mon secours. » Et cela, on le dit à Marie, simplement par ces mots. « Je vous salue, pleine de grâce. » Marie, donc, est au-dessus de tous les anges. Marie, ce mot signifie aussi celle qui est illuminée intérieurement. Isaïe disait d'ailleurs, parlons d'elle, « Dieu remplira votre âme de ses splendeurs. » Elle est illuminée intérieurement, mais Marie est aussi celle qui va illuminer les autres. C'est pour ça d'ailleurs que l'on compare Marie, je dirais donc, à la lune. C'est très beau cette image. La lune qui nous est lumineuse et qui nous éclaire. Mais elle nous éclaire parce qu'elle est d'abord éclairée par le soleil, par Jésus-Christ. Marie qui nous renvoie donc cette lumière de Jésus-Christ et cette grâce de Jésus-Christ qui passe par la très sainte Vierge Marie. Voilà donc première raison pour laquelle l'ange s'incline devant Marie. Marie est pleine de grâce davantage que lui-même, que l'archange Gabriel. Et l'archange Gabriel va donner une autre raison. Le Seigneur est avec vous. Dieu était déjà avec les anges. Ils sont habités par la grâce divine. Dieu habite en eux d'une manière particulière. Mais en disant cela, eh bien, l'archange Gabriel reconnaît que Dieu est davantage présent en Marie. Le Seigneur est plus avec Marie. En réalité, c'est toute la très sainte Trinité qui a un rapport particulier avec la très sainte Vierge Marie. Car l'enfant Dieu, Jésus-Christ, a une mère selon la chair, mais il n'a pas de mère selon la chair. Jésus-Christ n'a qu'un Père, et c'est Dieu le Père qui l'a créé, qui a engendré de toute éternité son Fils. Et il y a sur terre Marie, qui est la mère de Dieu, qui donne au Fils de Dieu eh bien, sa nature humaine. Et on le sait, la Sainte Trinité ne peut pas se séparer. Lors de l'incarnation, Le Fils de Dieu n'est pas séparé du Père ni du Saint-Esprit. Aussi, quand Jésus-Christ est en Marie dans son sein, entre l'Annonciation et la Nativité, eh bien, le Père est aussi Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit sont aussi en Marie d'une manière toute particulière, comme jamais en aucune autre personne Dieu n'a été. Marie est aussi unie au Fils de Dieu, à la seconde personne de la Sainte Trinité, de manière toute particulière, puisqu'elle est sa mère. Quel lien plus proche, plus important que cela? Le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, a été dans le sein de Marie pendant 9 mois. Et le Verbe de Dieu a appelé Marie « maman », « ma mère », « mère ». C'est très beau tout cela, encore. Vous voyez ce lien, le Seigneur est avec vous. Comment Dieu est avec Marie, comme à nul autre, comme avec nulle autre créature. Et enfin, je dirais, le Saint-Esprit, le Seigneur Saint-Esprit, est aussi en Marie. Déjà, on peut dire que le Seigneur ne demeure pas en Marie de la même manière qu'avec les anges. Bien sûr, le Fils de Dieu, comme Créateur et comme Sauveur, est dans les anges, comme il peut être en nous par sa grâce. Mais en Marie, il l'est d'une manière bien plus grande. Dans les anges, le Christ, le Fils, est là comme Seigneur, comme Maître. En Marie, Dieu le Fils, la seconde personne de la Sainte Trinité, est là comme Fils. C'est quelque chose d'unique. Le Saint-Esprit, enfin, est en Marie comme dans un temple. Et c'est le Saint-Esprit qui va opérer ce miracle étonnant de la conception miraculeuse du Verbe. Le Saint-Esprit vous couvrira de son ombre. Voilà pourquoi on peut appeler aussi Marie temple du Saint-Esprit, sanctuaire de l'Esprit-Saint. Et ce qui est très beau, c'est quel est le terme employé dans la Genèse par l'archange Gabriel pour expliquer comment va naître le Messie. Le Saint-Esprit vous couvrira de son ombre. Eh bien, c'est le même terme, opum brabit en latin, qui désigne la présence de Dieu dans le temple, dans l'arche d'alliance. Donc Marie est vraiment donc ce temple du Saint-Esprit. Dieu est vraiment avec elle comme en aucun autre. Avec elle est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité tout entière. Voilà pourquoi l'Église adresse cette louange à Marie, qu'elle est le trône de toute la Trinité. On l'appelle aussi trône de la sagesse. Comment Dieu trône en elle. Ou alors ces vierges qui portent l'enfant Jésus, vierge médiévale, où la Vierge est assise et tient l'enfant sur ses genoux. Parfois même, elle ne le touche même pas, où elle est vraiment présentée comme un trône, le trône du roi. Et quel est ce trône? C'est Marie qui présente son enfant à tous les hommes. Et puis enfin, donc, Marie a dépassé les anges par sa pureté. Elle est plus pure, plus que les anges. Et bien sûr, c'est elle qui obtient cette pureté pour nous. Notamment, elle nous obtient la pureté par le pardon des péchés. Et parce qu'elle est toute pure, elle a été aussi préservée des différentes peines qui ont pu frapper les hommes. Notamment, eh bien, on leur verra ça, eh bien, la peine de tu enfanteras dans la douleur. Eh bien, Marie, elle, concevra miraculeusement, n'aura pas à connaître les peines et les douleurs de l'enfantement. Jésus-Christ sortira miraculeusement d'elle sans lui faire perdre la virginité. Voilà donc pour les paroles de l'ange que nous disons dans le « Je vous salue Marie ». Il y a maintenant les paroles de Sainte Élisabeth. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. Qu'est-ce qu'il y a dans ces mots, vous êtes bénie entre toutes les femmes? Eh bien, c'est une chose qu'on a abordée dimanche déjà. Eh bien, cette bénédiction de Marie fait face à la première malédiction de la femme. Marie est bénie, Ève fut maudite parce qu'elle avait péché. Et pour y revenir très brièvement, Eh bien, la première femme, Ève, devait enfoncer dans la douleur, parce qu'elle avait péché. Tu enfonceras dans la douleur. Marie, elle, n'est pas soumise à cela. Elle enfante le Sauveur sans corruption. Elle le porte allègrement. Elle l'enfante dans la joie. Isaïe dira, la terre germera, elle exultera, elle chantera des louanges. Première donc malédiction auquel Marie échappe. Elle est bénie de Dieu. Deuxième malédiction, c'est celle qui frappe l'homme, Adam qui a péché. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain, le caractère pénible du travail, et aussi, eh bien, cela, eh bien, saint Paul dit, les vierges sont affranchies des soucis du monde et elles vaquent à Dieu seul. Eh bien, Marie, qui avait le souci de Dieu seul, a été préservée de beaucoup des soucis du monde. Et puis, une malédiction qui frappe aussi bien l'homme que la femme, c'est la mort. Tu retourneras en poussière. Eh bien, Marie a été préservée de cela. Le corps de Marie n'a pas connu la corruption. Son corps n'est pas retombé en poussière. En effet, eh bien, après sa mort, où est-elle ressuscitée à remonter au ciel, où son corps est-il monté au ciel avant, l'Église ne s'est pas prononcée, mais toujours est-il que Marie a été emportée au ciel avec son corps. Et son corps est aujourd'hui glorieux, uni à son âme dans le ciel. Cela s'est passé le jour de l'Assomption. Voyez, cette malédiction de l'homme, tu retourneras en poussière, a été épargnée à Marie. Elle est vraiment bénie entre toutes les femmes. Et je dirais bénie donc pour elle-même, mais bénie parce que par elle nous sont données les bénédictions. Et c'est un très beau titre qu'on donne à Marie dans les litanies de la Sainte Vierge, celle d'étoile de la mer. Vous le savez peut-être, les marins, avant l'invention du GPS, eh bien, se guidaient sur les étoiles, et notamment sur l'étoile polaire, qui indique le nord, une étoile fixe, qui ne bouge jamais. Eh bien, cette étoile polaire, c'est celle qui conduit les marins au port, au salut. Eh bien, Marie est comme l'étoile polaire. Elle nous guide en cette vie. Si nous voulons savoir où il faut aller, comment il faut vivre, regardons l'étoile, regardons Marie. Et elle nous guidera jusqu'au port du ciel, jusqu'au salut, jusqu'à la gloire. C'est elle la Marie. C'est très très beau, cette idée-là, de voir, regarder Marie pour trouver la bonne voie. Donc oui, vraiment, elle est bénie de Dieu et elle nous donne les bénédictions de Dieu. Et Élisabeth poursuit, sainte Élisabeth, le fruit béni de vos entrailles, le fruit de vos entrailles est béni, pardon. Le fruit de vos entrailles. Eh bien, le pécheur, quand il pêche, recherche ses propres avantages. Qu'est-ce qu'il désire en pêchant? Eh bien, les richesses, le plaisir, la jouissance. Et très souvent, le pécheur cherche à obtenir des choses par sa désobéissance et il n'obtient pas ce qu'il veut. Ainsi, j'irai, si on reprend donc Ève, qu'est-ce qu'elle a désiré en désobéissant à Dieu, en prenant le fruit du péché, le fruit de l'arbre de la science du bien et du mal? Elle désirait trois choses. Tout d'abord, elle désirait devenir comme Dieu. Qu'Adam et Ève, elle et Adam, soient comme Dieu. Vous serez comme des dieux, lui a dit le serpent, connaissant le bien et le mal. Le diable ment, car il est menteur, il est le père du mensonge. On ne peut pas le croire. Et bien, Ève, en mangeant du fruit défendu, loin de devenir comme Dieu, bien au contraire, s'est séparée de Dieu. Le péché a séparé l'homme de Dieu. Adam et Ève, par la grâce, étaient unis à Dieu. Par le péché, ils se sont coupés de lui, éloignés de lui, et cela s'est traduit, de manière plus sensible, par le fait qu'ils ont été chassés du paradis terrestre. Eh bien, par opposition, Marie, dans son fruit, dans le fruit de ses entrailles, en Jésus-Christ, trouve sa déification. Elle est sanctifiée par Jésus-Christ. Et quand nous nous unissons à Jésus-Christ, eh bien, nous y devenons semblables. Donc le fruit des entrailles de Marie est là. Second, Ève aussi, en prenant le fruit défendu, a désiré se délecter, ressentir des joies d'ici-bas. La Genèse dit que ce fruit était bon à manger. Et en fait, elle n'a pas trouvé cela. Dès qu'elle en a mangé, au contraire, elle a reçu, eh bien, la tristesse et la douleur. Elle a pris conscience de sa nudité. L'homme, à partir de ce moment-là, est amené à souffrir. Avant, il n'aurait pas dû connaître la souffrance. Eh bien, en revanche, dans le fruit de Marie, le fruit du sein de Marie, on trouve la douceur, le salut. Celui qui mange ma chair, dit notre Seigneur, possède la vie éternelle. Celui qui mange le fruit de Marie, le fruit du sein de Marie, qui mange Jésus-Christ dans l'Eucharistie, a la vie éternelle en lui. Mais vraiment, voyez à quel point le fruit de Marie est béni. Ce fruit, enfin, d'Ève était beau à voir, nous dit la Genèse. C'est pour cela qu'Ève s'est laissée tenter aussi. Eh bien, le fruit de Marie, du sein de Marie, Jésus-Christ, est infiniment plus beau. Et en le prenant, on a beaucoup plus qu'Ève. Ève a été encore trompée par le serpent. Et Jésus-Christ est le plus beau des hommes. Saint Paul nous dit que Jésus-Christ est la splendeur de la gloire de son Père. Bien voyez, Ève a cherché trois choses en désobéissant à Dieu. Elle ne l'a pas obtenue. Marie a obéi à Dieu et ces trois choses que recherchait Ève, ils lui ont été données, ils lui ont été obtenues. Eh bien, c'est vrai aussi du pécheur. Le pécheur dans le péché recherchera certains biens. Il espérera trouver le bonheur. Et il trouvera son malheur. Alors que si au contraire il se soumet à Dieu, il lui obéit, il trouvera son bonheur. Et c'est ce que Marie veut nous enseigner aussi quand elle nous invite à éviter le péché, à fuir le péché. Et c'est ce fruit de Marie, eh bien c'est aussi à nous de le bénir, de le louer, comme le font les anges. Les anges dans le ciel adorent Jésus-Christ, se prosterne devant lui. Bien nous aussi sur terre, il s'agit de le louer, de le bénir et de l'honorer. Voilà donc cette partie, j'irai, de « Je vous salue Marie » qui est contenue dans la révélation. L'Église, enfin, a rajouté une petite partie à ce « Je vous salue Marie ». Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, déjà le mot Marie, on l'a vu déjà en expliquant, que à travers ce mot Marie, qui a aussi bien donc l'étoile de la mer, par exemple, eh bien, on résume dans ce nom de Marie tous ses avantages, tout ce que l'on vient de dire. Mère de Dieu, eh bien, c'est simplement la conséquence des paroles de l'ange. Marie a été saluée par l'ange. Elle a accepté le plan de Dieu sur elle et elle est devenue mère de Dieu. On ne fait qu'exprimer de manière plus explicite ce qui était déjà implicitement contenu dans les paroles. Priez pour nous, pauvres pécheurs. On a vu comment Marie aussi a pour mission de nous donner le salut, c'est-à-dire d'ôter de nous le péché. Parce que nous sommes pécheurs, il nous faut prier Marie, et davantage. Plus nous sommes pécheurs, plus il nous faut prier Marie. Et Marie nous obtiendra d'être libérés du péché. Maintenant et à l'heure de notre mort. Donc Marie intervient. Viens à notre secours maintenant. Rappelez-vous cette belle histoire du marchand qui couronnait de chapelles, faisait des couronnes de roses à Marie en récitant son chapelet. Comment Marie, finalement, le protège maintenant du brigand qui était là. Et priez pour maintenant et à l'heure de notre mort. Pourquoi cette insistance sur l'heure de notre mort, eh bien, c'est une réalité qu'on trouve déjà au Moyen-Âge. Je ne l'ai pas abordé tout à l'heure, mais il y avait cette croyance, cette certitude au Moyen-Âge, que ceux qui saluaient Marie durant leur vie, qui disaient le « Je vous salue Marie », eh bien, seraient salués par Marie au moment de leur mort, que Marie viendrait à elle. Eux sont allés très souvent à Marie au cours de leur vie, par leur prière, eh bien Marie leur rendra l'appareil au moment important. Elle viendra là à l'heure de la mort. Cette présence de Marie à l'heure de la mort est très précieuse parce que Marie met en fuite les démons. Et l'heure de la mort est une heure terrible car c'est à cette heure-là que se joue notre salut. Et que aussi bien le bon ange que le mauvais agissent. Le démon se déchaîne. Pour lui, c'est le dernier moment pour emmener cette âme en enfer. Le bon ange intervient. Mais si Marie est là, eh bien, Satan, lui, doit partir. Et très souvent, la plupart du temps, les vrais dévots à Marie ont une fin douce, une fin paisible, parce que Marie vient à eux. Et rappelez-vous encore ce privilège qui est donné dans la dévotion au Saint-Rosaire, privilège sabbatin. Eh bien, donc, la Vierge vient les délivrer du purgatoire. Eh bien, donc, c'est le premier, si je me souviens bien, le premier samedi du mois qui suit la mort. Là encore, Marie vient les saluer à cette heure-là. Vous voyez donc tout ce que comporte cette dévotion au Saint-Rosaire et combien cela est important, spécialement donc aujourd'hui, pour notre salut et pour le salut de notre temps. Alors, que retirer un peu de ces quelques mots? Eh bien, une plus grande dévotion à notre chapelet. Et surtout cette résolution importante de le dire chaque jour, quoi qu'il arrive. Et c'est une dévotion, finalement, très simple et très belle. C'est se réjouir avec Marie de notre salut. C'est désirer le ciel. Et c'est encore, eh bien, demander à Dieu, par elle, tout ce qui nous est nécessaire. Bien. Demandons donc à Marie qu'elle nous donne et qu'elle nous aide à toujours mieux pénétrer cette dévotion au Saint-Rosaire.